Musicopolis. Pergolèse, Naples, 1736. Parmi les voyageurs passés par Naples au XVIIIe siècle, on trouve une certaine Sarah Goodhart, irlandaise, mariée avec un Français et qui a tenu, dit-on, un casino sur le Posilip, charmante villégiature sur le Golfe. Voici ce qu'elle écrit dans sa relation historique des divertissements du carnaval. À Naples, où le gouvernement ne supplée en rien à l'aisance des citoyens, à Naples, où ceux qui jouissent des plus grandes fortunes manquent de moyens, à Naples, où personne n'est riche parce que le luxe relatif conduit tout le monde à la pauvreté, à Naples, où la misère publique est cachée derrière le faste national, à Naples, où l'indigence habite dans les palais des grands comme dans les cabanes des petits, à Naples, où la noblesse est dérangée, les citoyens obérés et la nation endettée, tout le monde se livre au spectacle, au divertissement, au jeu, au bal, à la danse. C'est qu'on y a le goût de tous ces amusements. Si les Napolitains se vouent à toutes sortes de spectacles, j'ai déjà parlé de ce qui concerne la religion et la dévotion, qui les entraîne sans cesse dans des processions, des cérémonies, des messes, des représentations de drames sacrés, il est un divertissement qui surpasse tous les autres en luxe et en invention, c'est l'opéra. Pour accueillir les ouvrages qui plaisent tant aux Napolitains, la ville dispose de plusieurs théâtres. Le San Carlo n'existe pas encore, il sera construit seulement un an après la mort de Pergolèse pour remplacer le San Bartolomeo. Justement, c'est le San Bartolomeo qui tient le premier rang à Naples jusque-là. Construit en 1621, il accueille son premier opéra au milieu du XVIIe siècle, lorsque la mode arrive de Venise. C'est une salle rectangulaire, avec un parterre devant la scène où on se tient debout, et sur les côtés, trois étages, deux de loges et un de sièges individuels. Au centre du deuxième étage se trouve la loge du vice-roi, entourée de celle des princes et des aristocrates. je parlais à l'instant de Vice-au-Roi. En effet, au moment où Pergolèse finit ses études au Conservatoire des Pauvres de Jésus-Christ, en 1731, le royaume de Naples est depuis près de 20 ans contrôlé par les Habsbourg d'Autriche, après avoir été administré par la couronne d'Espagne. Les Autrichiens ne sont pas très aimés des Napolitains, ils sont arrogants et ils saignent le pays par un abus de taxes. Néanmoins, ils aiment la musique et ils envoient les meilleurs musiciens viennois à Naples, tout comme ils attirent à Vienne les plus grands interprètes ou compositeurs napolitains. Lorsqu'on consulte la liste des créations au théâtre San Bartolomeo de Naples entre 1696, date de sa dernière reconstruction suite à incendie, et sa fermeture en 1737, une liste que vous pouvez trouver en lien sur notre page Musicopolis, bien sûr, on constate qu'il peut y avoir jusqu'à 5 nouveaux ouvrages par an, ce qui est proprement énorme et coûte extrêmement cher. Parmi les noms de compositeurs qui reviennent le plus souvent, ceux de Francesco Feo ou de Leonardo Leo, que j'ai déjà eu l'occasion de mentionner dans cette série, ou celui de Francesco Mancini, dont 18 opéras sont créés au San Bartolomeo. Nous écoutions un extrait de Il Traiano, représenté en 1723. Mancini a été formé à Naples au conservatoire des Turchini et il est devenu maître de chapelle du vice-roi. Il a souffert longtemps de la présence dans la ville d'Alessandro Scarlatti, qui lui a été préféré et dont il a dû rester le second à la chapelle royale. Il a tout de même été directeur du conservatoire de Santa Maria di Loreto et il a eu de nombreux élèves. Entre 1726 et 32, le compositeur le plus représenté au San Bartolomeo est tout de même Johann Adolf Hasse. Johann Adolf Hasse, comme on s'en doute, n'est pas italien. Il est né près de Hambourg et il a commencé sa carrière comme ténor en Allemagne du Nord. Puis il est venu en Italie au début des années 1720 et il est resté à Naples plusieurs années. D'après le flûtiste allemand Quantz, Hasse a étudié avec Alessandro Scarlatti. 1726 est l'année de sa première commande du San Bartolomeo et jusqu'en 1732, donc en 6 ans, 17 ouvrages de lui seront donnés dans ce théâtre, 9 opéras seria et 8 intermezzo bouffe. On pourrait bien lui ouvrir un chapitre dans le Guinness Book des records. C'est entre 1720 et 1730 que le San Bartolomeo de Naples atteint son apogée. Le succès lui vient bien sûr de ses compositeurs, mais aussi de ses chanteurs, puisqu'il accueille les plus grandes stars du chant. Les castrats Nicolino, Senesino, Carestini, Farinelli. Les chanteuses Faustina Bordoni, Margherita Durastante, Maria Strada del Po, Vittoria Tesi. Tous sont connus aujourd'hui pour avoir fait des carrières internationales tout à fait brillantes. Faustina Bordoni s'est mariée en 1730 avec Hasse et ils ont poursuivi ensemble les chemins qui les ont menés partout en Europe, dans les cours les plus importantes et les plus grands théâtres. Sol persuaso al fine della tua fedeltà. L'odio agli dèi, or di me si fida, più geloso non è. Dove, dove chi dice che un femmin pensiero dell'aura è più leggero? Dove, dove chi dice che più del mare un sospettoso amante è torbido e incostante? Ed io non posso dir, mi disingano assai, mi convince abbastanza la placidezza tua, la tua costanza. Ricordo e giuramento, la promessa rammento, si conosce, si vede, che placido amator, e bella fede. Se mai più sarò geloso, mi parisca il sacro nome che l'inno, che l'inno e l'inno mi punisca il sacro. Pergolèse, qui termine ses études au Conservatoire des Pauvres de Jésus-Christ en 1731, a une dizaine d'années de moins que Hasse. Il a certainement eu l'occasion de voir et d'entendre les opéras du Saxon pendant ses études, puisque, comme je le soulignais, 17 d'entre eux ont été créés au San Bartolomeo. Quoi qu'il en soit, en 1731, on a pu voir dans le cloître de l'église Sant'Agnello la représentation du drame sacré de Pergolèse, Saint Guillaume, duc d'Aquitaine. L'œuvre a certainement été remarquée, puisqu'on lui commande, pour le carnaval de 1732, un opéra seria, Sallustia. Les autorités du San Bartolomeo font très confiance à Pergolèse. Elles engagent même le castrat Nicolino, qui a chanté les plus grands rôles de Handel. Mais Nicolino va mourir pendant les répétitions de son opéra. La création est repoussée, le temps de faire venir de Rome un autre castrat, le jeune Gisiello, qui se fera connaître plus tard jusqu'à Londres et Madrid. Mais la présence de cette star ne suffit pas à emballer le public. Le jeune compositeur a sans doute abusé des récitatifs, juste accompagné au clavecin, qui paraissent interminables et qui détruisent le rythme de la pièce. Néanmoins, il y a suffisamment de beaux airs et il a eu assez d'occasions de montrer son efficacité dramatique pour se faire remarquer du public et de quelques mécènes. Sallustia, donnée en janvier 1732 au San Bartolomeo, est assortie d'un intermezzo du même Pergolèse intitulé Nibbio e Serina, malheureusement perdu. Petite explication sur ce terme d'intermezzo. Alors que les premiers opéras vénitiens mélangeaient les genres et faisaient intervenir des personnages et des scènes comiques dans une histoire qui comprenait aussi des héros et des situations sérieuses, peu à peu, les ouvrages se sont spécialisés et on a vu d'un côté des opéras seria et de l'autre des comédies en musique. Néanmoins, le public napolitain apprécie les deux genres et sans hiérarchie. Aussi, pour varier un peu les plaisirs, a-t-on pris l'habitude, au début du XVIIIe siècle, d'introduire entre les actes des opéras sérieux, en guise d'entracte au sens propre du terme, des intermèdes comiques. Pour les trois actes de Sallustia, donc, il y avait deux actes d'intermèdes comiques. Après cette grande première pour Pergolèse, notre jeune musicien va attendre 18 mois pour sa prochaine création au San Bartolomeo. Mais entre-temps, il va donner dans un autre théâtre de Naples, celui des Fiorentini, une comédie sous le titre « Lo frate innamorato », le frère amoureux.
Oh, Ascanio, pur fantone, è tutto che stancione. c'è. Sono di nuovo, mio signor Marcaniello, io qui a servirla. Si compiacerà, forse.
Aspetta, aspetta! E tu?
Si mussa stritt, a cussi fuglia l'uomo.
Io li fuglia, ma chi le fa arrivano?
Di grazia, cosa in faccia, Don Pietro?
Che schifanzia te posta in faccia?
È il solito mio color porporino.
Egli è belletto,
gnor sì, ma che pazzia!
Ciuccio, ciuccione!
Hai che stata virtù!
Ma se io son bello, non posso farmi brutto!
Hai truanne fia da vatta in ogni conto! E te!
Ahimè!
Cadde il meschino!
Disgrazia!
Oh, non si incomodi, che farò io!
Lo frate innamorato, donné en septembre 1732 à Naples au théâtre des Fiorentini, spécialisé dans les pièces comiques, met en scène toutes sortes de personnages. Trois nobles romains, qui parlent donc en italien, et des napolitains, dont le dialecte est plus ou moins accusé selon leur âge et leur place dans la société. Comme ce sera le cas plus tard dans les opéras de Mozart, il y a aussi plusieurs niveaux de chant, du très lyrique au franchement bouffe. En tout cas, le final du deuxième acte deviendra un modèle de finale bouffa pour les compositeurs qui suivront.
Ah, ah, les pieds ! Ah, que douleur ! Ah, oh, mannaggia oggi !
Non sarà che una cosa che non si può dire.
Che? La podata?
E la peste che va afferra tutte e due! Potresti adagio adagio tornare in casa!
Chi pottano pass! I so ciuncato!
Io prenderò in braccio!
Arrassate! Aiutarvi, pan costoro!
Via, portatelo, mamma Ranucella!
Ora questa sarà la vista bella!
Facite chiaro, chiaro, chiaro!
Sì, sì, pian piano, sì, sì, pian piano!
Con diligenza,
con carità!
Di che spiegare se non sarà? Di che spiegare se non sarà?
Sì, Carla mia, congiova rimba e parla rimba!
Sì, signor mio, ne rivedremo e parleremo!
Chiara, 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 mannaggia!
E mannaggia, piano, mannazzo, piano, mannazzo!
Va, baclava, puerca, puerca, show, show, show!
Il suo strapazzo m'è sempre caro, caro di
puerca!
Via, via, venite con me, sia più!
Après le grand succès qui accueille Lo Frate Innamorato, la renommée de Pergolèse qui n'a que 22 ans monte d'un cran. À présent, il a fait ses preuves dans le drame sacré, dans l'opéra seria et dans la comédie en musique. C'est l'occasion d'une nouvelle commande pour le San Bartolomeo, d'un opéra seria cette fois-ci avec son intermezzo comique. Pergolèse compose donc Il prigionier superbo, le prisonnier superbe.
Thank you.
Le prisonnier superbe de Pergolèse aurait dû être donné au moment du carnaval 1733, au mois de janvier. Mais à la fin de 1732, a lieu un terrible tremblement de terre à Naples qui repousse la création. Ce n'est donc qu'en septembre, à l'occasion de l'anniversaire de l'impératrice d'Autriche, Élisabeth Christine, qu'il peut faire représenter son nouvel opéra. Il contient beaucoup de belles pages, des airs et des duos, et néanmoins, ses beautés sont éclipsées dès le soir de la première par l'intermezzo qu'on entend entre les actes, la serva padrona, la servante maîtresse. De la première partie de La Servante Maîtresse de Pergolèse avec Patrizia Bicire soprano, Donato Di Stefano basse et La Petite Bande dirigée par Sigiswald Koiken. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Françoise Monteil pour les recherches et le site, Pascal Bénard pour le mixage et Philippe Petit pour la réalisation.